c'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Radio Bulle, la radio de la Genêt avec Alain Jeanne.
Chut, on écoute la télé avec Real Chocolat, votre artisan chocolatier. Chocolat sous toutes ses formes et pour tous les goûts. Guimauve, nougat, la fameuse pâte de fruits et les nombreux coffrets gourmands à découvrir dans votre boutique à Beauvais près d'Agen. Zone La Motte Maniaque et sur real-chocolat.com. Real Chocolat fait naître la gourmandise.
Chut, on écoute la télé avec les confitures cuites au chaudron par Lucien Georgelin. Vos points de vente en Lot-et-Garonne sur lucien-georgelin.com.
Et merci de nous rejoindre pour Chut, on écoute la télé, l'hebdo sur Radio Bulle, des équipes de films, des comédiens, des chanteurs et bien d'autres pour cette heure que l'on démarre ensemble maintenant. Alors c'est parti pour le sommaire.
Chut, on écoute la télé,
le talk show radio.
Alors au sommaire de votre émission de ce lundi 23 septembre, eh bien nous allons accueillir dans un tout petit instant le trompettiste le plus connu de France, celui que vous adorez, Ibrahim Malouf, qui va sortir son 11e album studio vendredi. Il sera avec nous pour en parler dans quelques tout petits instants. Nous terminerons l'émission avec notre coup de cœur cinéma consacré au film Le Dindon, avec Camille Lelouch qui sera notre invité. Coup de cœur sortie DVD aussi pour les crevettes pailletées cette semaine. À cette occasion, David Bayot et Geoffrey Coué seront également nos invités tout à l'heure en fin d'émission. Deux coups de cœur télé majeurs cette semaine à vous proposer. Eh bien, tout d'abord, évidemment, mardi, c'est le prime événement de Plus belle la vie. À cette occasion, Sébastien Charby, le producteur de la série, ainsi que Jérôme Bertin, Thibaut Vanek et Léonore Sarrazin, alias Patrick Nebout, Nathan et Sabrina, seront donc nos invités exceptionnels. Et on parlera également de la série Pour Sarah, qui fait ses débuts sur TF1. Ça sera donc jeudi soir à 21h05. À cette occasion, on recevra Frédéric Berthe, le réalisateur, accompagné de Clément Rémiens, qui sera avec nous pour l'occasion. Donc vous l'avez compris, c'est une émission chargée qui nous attend et on va faire tout de suite un petit détour vers les audiences de la semaine dernière, comme d'habitude.
Les tops et flops d'audience.
Et dans les audiences, eh bien, de la semaine dernière, lundi, il y avait Colombine sur TF1 qui a permis à la chaîne, eh bien, d'arriver largement en tête des audiences avec 5 206 000 téléspectateurs et 23,2% de part de marché. L'amour est dans le pré, donc deuxième, loin derrière, avec 3 438 000 téléspectateurs et 15,4% de part de marché. The B sur France 2, eh bien, c'est pareil, score correct dans la moyenne, 12,4% de part de marché, 2 780 3000 téléspectateurs. Mardi, il y avait SWAT sur TF1. Eh bien là, c'est un joli score avec à peine 20% de part de marché néanmoins, mais 4 092 000 téléspectateurs, la barre des 4 millions symbolique a été dépassée. Crime dans le Luberon sur France 3, eh bien résiste bien avec 3 276 000 téléspectateurs et 16,2% de part de marché. Petite déception pour l'émission Nos Terres Inconnues avec 2 102 000 téléspectateurs seulement et 12,6% de part de marché. Mercredi, il y avait Good Doctor, bien sûr, sur TF1. Et jeudi, eh bien, c'était le final du Temps est assassin sur TF1. Et eh bien là aussi, ça a permis à la chaîne de retrouver des couleurs avec plus de 5 millions de téléspectateurs pour ce final. Et vendredi, le match était toujours aussi serré entre Les Petits Meurtres d'Agatha Christie et The Voice Kids, surtout Campus et Petits Meurtres. C'était à noter également un record d'audience pour l'émission Je t'aime, etc. lundi dernier, en après-midi sur France 2 et la forme olympique, eh bien, des séries quotidiennes, puisque ainsi, Grand Soleil a flirté avec les 3 800 000 téléspectateurs. Demain nous appartient a été en tête tout au long de la semaine devant Nagui à 19h20 sur TF1. Donc voilà, c'est ce qu'on pouvait dire en tout cas des audiences et des tops de la semaine dernière.
L'album de la semaine.
Allez, notre invité d'honneur aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé, c'est certainement le trompettiste le plus doué de sa génération. J'ai eu beaucoup de chance, moi, de le voir sur scène avec une énorme fête au Francofolie de La Rochelle et puis au Surgerbras Festival cet été avec un tout nouveau concert. C'est Ibrahim Malouf qui est avec nous. Bonjour Ibrahim.
Bonjour.
Merci d'être là. Alors, l'album, le nouvel album, sort vendredi, s'appelle Sens. Et en plus, c'est un grand moment cette semaine, puisque dès ce soir, demain et après-demain, c'est l'Olympia. Et c'est toujours une salle mythique.
Ah, c'est clair. Je suis très très excité pour ces trois concerts. D'autant que j'ai eu l'information il y a plusieurs mois que c'était complet.
La date de ce soir a été rajoutée pour le coup, elle n'était pas prévue ce soir.
Exactement, c'était complet très rapidement et du coup on a rajouté cette date, ce qui est encore plus kiffant, c'est de se dire on fait encore un autre concert en plus sur cette tournée, donc c'est vraiment très 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 très, très cool. J'ai des invités géniaux sur ces concerts, sur toute la tournée aussi, j'ai des invités incroyables il va y avoir vraiment une c'est comme une nouvelle aventure là qui démarre vraiment avec cet album. C'est mon 11e album studio et je passe complètement à autre chose aussi, tout en restant un peu dans ce que j'ai l'habitude de faire, mais je passe sur dans un monde complètement différent que celui qui est celui de la musique sud-américaine. Et voilà, donc du coup c'est une nouvelle aventure là qui démarre et c'est un grand grand bonheur pour moi.
Malgré tout, tu explores différents univers dans tes albums, c'est pas fixé sur une sonorité particulière, c'est ça, c'est bien. Moi, ce que j'ai l'impression en écoutant tes albums, c'est qu'on voyage en fait.
Eh ben c'est cool.
Non mais c'est vrai, c'est l'impression que ça donne.
Ça me fait plaisir parce que c'est un peu non seulement c'est un peu ce que j'ai envie, c'est que les gens voyagent en écoutant ma musique, mais c'est surtout que du coup c'est bien parce que c'est ce que le sentiment que j'aime moi transperce la musique et visiblement vous en tout cas vous le sentez aussi. C'est que moi, grâce à ma musique, je voyage. Grâce à cette musique et physiquement, je voyage évidemment pour faire les tournées, mais je voyage aussi dans ma tête. Mes albums, ce sont les bandes originales de mon quotidien. Quand je travaille sur un album, je travaille dessus pendant 3 à 4 ans, parfois plus, et c'est ce qui m'accompagne chaque jour dans mon quotidien. Et je voyage avec et j'essaie de faire en sorte d'aller le plus loin possible. Donc, si vraiment si le public et les gens qui écoutent ressentent la même chose que moi, ça veut dire que mon pari est gagné.
Ça c'est beau, nouvel album Sens, ça sera d'ailleurs notre album coup de cœur cette semaine, sort vendredi dans les bacs, il s'appelle Sens, il y a 9 titres dedans pour le coup cet album. C'est toi qui as tout fait, encore une fois, sur cet album, t'as tout composé, arrangé.
Oui, après voilà, moi je suis pas tout seul, hein. J'ai des musiciens extraordinaires qui me suivent, qui m'accompagnent, avec qui je travaille, avec qui j'ai un bonheur incroyable de travailler depuis des années pour la plupart. Il y a des histoires qui restent, des collaborations qui font que ma musique ressemble à ce qu'elle est. C'est aussi parce que ces collaborations sont là. François Delporte à la guitare, Franck Vest au clavier, Stéphane Galland à la batterie. Ce sont des gens qui sont là depuis plusieurs longues années maintenant pour certains et qui me suivent et qui colorent ma musique avec leur couleur à eux. Donc je peux pas n'être que le seul à m'auto-féliciter.
C'est un travail d'équipe.
Voilà, exactement, c'est un travail d'équipe. Et il faut aussi que je vous dise quelque chose. Moi, j'ai monté mon label en 2005-2006 pour sortir mon premier album en 2007 parce que personne n'en voulait. Et depuis, je construis une équipe autour de moi. J'ai un label, je suis indépendant, je suis un artisan. Beaucoup de gens oublient, ils voient qu'on fait des concerts dans les Zénith ou à Bercy ou à l'Olympia, qu'on fait plein d'albums, etc. Mais en fait, les gens ne doivent pas oublier que je suis un artisan avant tout. Et que c'est cet artisanat-là qui, à un moment donné, est porté au niveau auquel j'ai la chance de pouvoir tourner et à la notoriété que j'ai la chance d'avoir depuis quelques années maintenant. Grâce aux victoires de la musique ou grâce aux récompenses que j'ai pu avoir, etc. C'est quelque chose qui ne doit pas faire oublier que mon travail, c'est de l'artisanat. Voilà, je suis comme un petit artisan qui est dans son atelier, mais qui vend un peu partout dans le monde son travail. Voilà.
Quelque part, si c'était un peu difficile au début, que Universal ou les grandes maisons de disques n'ont pas voulu forcément te suivre là-dessus, ça t'a permis toi de trouver ta route tout seul et peut-être d'aller dans un chemin plus direct finalement.
En fait, je peux pas citer de nom de maison de disques qui n'auraient pas voulu, parce que finalement, personne n'a voulu produire mon album.
Comme ça, c'est plus clair.
Voilà, personne n'en a voulu. On a essayé d'être intelligent aussi, on a essayé de collaborer parfois avec eux sur certaines choses, notamment sur la distribution, parce que nous, on n'avait pas de réseau de distribution. Ils ont accepté de distribuer mon album sans vouloir par ailleurs le produire, ce qui est un peu assez contradictoire comme attitude. Mais en fait, moi, je crache sur personne. Juste simplement, ce que je veux dire, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup travaillé et dur, et qu'on est devenu une grosse équipe, et qu'aujourd'hui je suis pas tout seul, on est un peu moins d'une dizaine à travailler comme des fous pour que mes albums existent et pour que ma musique voyage et qu'elle ait j'imagine le public que j'espère qu'elle mérite, en toute humilité. Mais
alors, jugez plutôt les salles énormes. On va te voir dimanche prochain au Zénith de Nantes, on te verra le 12 octobre au Zénith de Toulouse, le 13 octobre à notre fameuse Arkea Arena de Bordeaux dont on est si fier. Tu feras un petit détour aussi vers la salle de la Sirène à La Rochelle le 16 et 17 novembre prochain. Ta tournée passera évidemment par Grenoble, Lyon, Lille et Brest, bien sûr samedi. Donc vraiment des belles dates, des belle tournée qui t'attendent pour tout l'automne. On va découvrir tout de suite déjà un premier titre. Lequel tu as envie de nous faire découvrir là de Sens?
Eh, écoutez, celui que j'ai eu envie de mettre en avant en tout premier, qui est sorti en mai, et qui est en fait le single, mais quand on dit single, ça veut pas dire que c'est un hit ou un tube, hein, mais single dans le sens où c'est ce qu'on a envie de présenter en premier pour que les gens commencent à s'acclimater un peu avec ce nouvel environnement musical de l'album. C'est un morceau qui s'appelle Happy Face, qui veut dire donc les visages joyeux, et qui est un morceau qui est censé donner le sourire, mettre la banane comme on dit et la pêche. Donc voilà, je pense que ce serait la meilleure manière de faire en sorte que le public, les auditeurs découvrent mon album.
On écoute tout de suite Happy Face, premier extrait de l'album Sens, ça sort vendredi dans les bacs. Ibrahim Malouf qui est notre invité aujourd'hui. Venir dans un instant, Happy Face, hein, c'est le premier extrait qu'on écoute de l'album d'Ibrahim Malouf, qui est avec nous, notre invité d'honneur aujourd'hui à l'occasion de cette sortie qui aura lieu vendredi. Ibrahim, tu restes avec nous, on revient dans 3 minutes.
Avec grand plaisir.
Et ben, tout de suite dans Chut, on écoute la télé.
Bouge pas, Chut, on écoute la télé revient dans un instant, à tout de suite. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. L'album de la semaine.
Allez, de retour dans Chut, on écoute la télé. L'album d'honneur cette semaine, eh bien, c'est Sens, le 11e album studio d'Ibrahim Malouf qui est avec nous. Si on devait faire un petit retour un petit peu sur ce succès, comment tu le vis, ce succès depuis 10 ans, tout ce qui t'est arrivé pour en arriver jusqu'à ce 11e album et toutes ces grosses scènes que tu vas faire dans les semaines qui arrivent là?
Contrairement à pas mal d'artistes, je critique pas hein, parce que c'est une autre manière de fonctionner, mais qui peut-être vont vivre ça avec une sorte de, qui vont plonger comme ça dans cette histoire de notoriété, etc. Parce que finalement, c'est des producteurs qui payent tout et qui gèrent tout pour eux, et eux, ils sont un peu la cerise sur le gâteau qui arrive. Moi, c'est la force de mes bras et de mon travail, et c'est mon investissement personnel qui fait que je fais toutes ces dates aujourd'hui.
Tes compliments, t'en es encore plus fier finalement quand les gens viennent te voir et te disent j'aime ta musique et tout. On est encore plus fier quand on fait tout soi-même quasiment.
En fait, ce que je veux dire, c'est compliqué pour moi de dire que je fais tout moi-même. Je fais pas tout moi-même.
C'est avec ton équipe, je parle, hein, évidemment. Je t'englobe avec l'équipe. Hein.
C'est ça. Je suis très entouré par une énorme équipe qui travaille avec moi et pour mon travail. Et je suis très très reconnaissant de leur investissement dans mon travail, évidemment. Donc je ne suis pas tout seul, loin de là. Mais par contre, en effet, je fais ces investissements moi-même. Quand par exemple, en 2016, j'ai produit une date à Bercy. Et tout le monde m'a dit, mais Ibrahim, Bercy, personne ne va venir à Bercy. T'es trompettiste.
Tu l'as rempli.
Voilà, t'es trompettiste, t'es pas une star de la pop, etc. Ça prouve bien, surtout, en le remplissant, et on était sold out 8 mois plus tôt, en debout, hein, pas avec des sièges et tout, hein, debout. C'est-à-dire, on a fait plus de 17 000 tickets vendus 8 mois plus tôt. Et ça prouve bien une chose, en fait. Moi, c'est pas tellement pour la reconnaissance, c'est pour l'ego. Hein, moi, je m'en fous un peu, honnêtement, de ça. Mais surtout, ce que ça prouve, c'est que les gens sous-estiment largement ce que la musique instrumentale et ce que les artistes qui ne sont pas des pop stars sont capables de faire. Et si on était beaucoup plus nombreux à être indépendants et à croire en nous, plus que les maisons de disques, on aurait finalement plus de pouvoir qu'eux sur le travail qu'on fait. Et malgré ça, on remplit des zéniths, on remplit un Bercy, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que si les artistes, on pouvait croire en nous plus que ce que les maisons des disques ou ce que les radios elles-mêmes ne croient pas finalement, je sais pas si ma phrase veut dire quelque chose, mais je pense que les gens vont comprendre, eh ben on s'en sortirait finalement mieux. Donc on est dépendant de personne, on est des artistes libres et indépendants, et cet artisanat dont je vous parle, je le revendique aujourd'hui plus presque que ma musique.
Un mot sur les collaborations futures, avec quel artiste tu aimerais collaborer sur des futurs albums? Est-ce que tu as des rêves dans ce sens avec des artistes français ou étrangers, toi qui as fait plus de 40 pays en 10 ans là pour le coup de carrière?
Alors c'est bizarre, j'ai jamais fonctionné en rêvant de collaboration. J'ai toujours eu une chance incroyable Ça aussi, c'est parce que je suis instrumentiste, je crois. Souvent, les chanteurs sont peut-être un peu plus frileux que les instrumentistes. Et à chaque fois que j'en ai l'opportunité, je rencontre des gens. Mais c'est dingue, les gens que je rencontre. J'étais sur scène à Montreux pour collaborer avec Quincy Jones, qui est quand même juste le plus grand producteur de l'histoire de la pop et qui est à la fois un trompettiste de jazz jusqu'aux années 60. Et c'était incroyable de le croiser, de jouer pour lui, avec lui sur scène. Mais du coup, ce qui était incroyable, encore plus incroyable, c'est que j'ai rencontré des musiciens et des artistes que je n'avais jamais rencontrés avant, ou que j'avais pu croiser à X ou Y occasion, mais sans vraiment trop approfondir. Des liens se sont créés et des collaborations sont à prévoir bientôt.
Bon, c'est des belles rencontres, des belles choses. En tout cas, dimanche prochain, tu seras au Zénith de Nantes. On te retrouvera le 12 octobre au Zénith de Toulouse, le 13 à l'Arkéa Arena de Bordeaux, le 16 et 17 novembre à La Sirène de La Rochelle. L'album sort vendredi et tu vas choisir maintenant un deuxième extrait avant de partir.
Mais comme l'album est quand même très influencé par la musique latino et que Happy Face, on l'entend pas vraiment, vraiment encore, j'ai envie de vous encourager à écouter Una Rosa Blanca. C'est un extrait d'un poème de José Martí, qui est un poète cubain.
Premier titre de l'album.
Voilà, et on entend dedans un extrait d'un discours de Barack Obama. Et que voilà, j'encourage tout le monde à écouter ce titre pour tout ce que ça symbolise également.
Et ben on l'écoute tout de suite. Merci beaucoup Ibrahim d'avoir été avec nous et à très vite.
Cœur télé cette semaine.
Allez, on démarre notre spécial Plus belle la vie, c'est le prime demain soir, le prime événement des 15 ans de la série. On va recevoir dans un instant eh bien justement Thibaut Vanek qui sera avec nous, et Léonore Sarrazin également, Jérôme Bertin, trois stars de la série. Et on va démarrer cette spéciale tout de suite avec Sébastien Cherby, le producteur, qui est avec nous. Bonjour Sébastien.
Bonjour à tous.
Alors c'est un sacré prime qui nous attend demain soir, qui va rebattre beaucoup de cartes, qui va inclure beaucoup de personnages de la série, dont des personnages emblématiques. C'était un cap à passer ces 15 ans, il fallait marquer le coup, il fallait faire quelque chose d'événementiel.
Alors oui, et c'est pas un prime dès 15 ans, c'est un prime qui ouvre la porte d'après. C'est un prime qui ne conclut pas une histoire, à la différence des précédents primes. C'est un prime qui ouvre beaucoup d'histoires, ou comme tu l'as très justement dit, rebat les cartes pour beaucoup de personnes. On a deux familles emblématiques, la famille Baumel et la famille Bellesta, qui va avoir son destin, qui va être notablement impacté par ce prime. On va avoir tous les Mistraliens qui vont être notablement impactés par ce prime. Ils ne sont pas tous présents dans le prime parce qu'on ne pouvait pas le faire. Mais c'est beaucoup plus un prime qui ouvre sur la saison à venir en posant des enjeux qu'on va égrener pendant un an.
Alors il est vrai que pour ces 15 ans, tu as été l'instigateur d'énormément de retours. On vient de revoir une Dounia pour la deuxième fois, Flavie Péan qui a fait également son retour, Aurélie Vanek qui va revenir à l'automne. C'est une fierté, non ?
Oh, mais c'est un plaisir. Les gens, ils demandent toujours, mais ils demandent comme si on était contre. Nous, on est hyper contents de voir ces retours-là. Et c'est vrai que depuis des années, l'idée, il est de penser la famille élargie de Plus belle la vie avec des personnes qui sont parties et qui reviennent. Et c'est normal parce que ces personnages-là ont marqué la série, ont marqué le public. Et ben, c'est super chouette de les voir revenir chez nous. Surtout que on a régulièrement des histoires avec eux et qu'ils y prennent beaucoup de plaisir, donc c'est agréable.
Alors le public a été un peu dérouté par toutes ces petites pastilles pour les 15 ans où tout le monde s'est dit ça y est, Juliette Chêne va revenir, Benoît Cassène va revenir, ou tout plein de comédiens vont revenir. Alors quel est le vrai du faux là-dedans ?
Eh ben vous allez voir, mais c'est vrai que toutes ces pastilles, en tout cas, c'était le but, c'était de renouer le fil avec certains personnages qu'on n'avait pas vus depuis longtemps, avec certains comédiens qu'on n'avait pas vus longtemps, de tester aussi les envies. C'est le cas avec le personnage de François Marcy, c'est le cas du personnage de Douala, c'est des gens qu'on n'avait pas vus depuis longtemps, et on s'est dit, mais il y a quand même beaucoup d'affection pour tous ces personnages-là, donc voyons ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, on est au stade des discussions, on a des histoires sur un peu tous, donc on va voir comment ça va se décanter.
Donc des retours pour 2020 pourraient encore avoir lieu.
Oh que oui, je m'en frotte les mains.
Je vois ça. Bon, en tout cas, on va en parler avec notre personnage de ce prime aussi dans quelques instants. Comment il a été tourné? Quel est ton plus beau souvenir de tournage? Parce que je crois que ce prime a été quand même épique.
Alors, il a été épique. Marion Lallier, elle a fait un travail formidable et tous les comédiens qui ont été là, c'est formidable parce que, en fait, on n'a pas eu plus de temps que d'habitude. On a eu juste beaucoup plus d'ambition en disant, voilà, on fait une catastrophe. Alors, pas pour faire comme les autres, comme je l'ai entendu, mais parce que nous, ça nous permettait d'impacter durablement des trajectoires de personnages.
Il a été tourné en 3 semaines, je crois.
Il a été tourné en 16 jours, pile poil. Il a été préparé longtemps avant. On a pas mal travaillé sur des décors, sur des manières de faire. Nous, on trouve que, à l'image, c'est à la hauteur de nos espérances. Après, voilà, c'est les gens qui décideront. Mais il y a beaucoup d'émotions dans ce prime. Le personnage de Karine Bellestac est formidable. Et si rien, il fait un travail soufflant. Tous nos comédiens sont dans l'émotion. C'est pas du tout un prime catastrophe comme les Américains pourraient le faire. C'est un prime qui est en émotion. C'est ce qu'on dit depuis le début. C'est nous, la catastrophe, elle sert à rentrer dans l'intimité de nos personnages. Il y a beaucoup de moments très émouvants.
C'est un peu à l'image de l'accident de bus qu'on avait pu voir dans Demain nous appartient l'année dernière, qui avait provoqué une émotion intense chez les fans. Le but est aussi là, et de voir quel destin et quels personnages ont été impactés évidemment par cette catastrophe.
Oui, alors le but il est un peu différent parce que le sujet du catastrophe ça a été initié il y a longtemps dans des discussions quand on allait voir Coronation Street et tout ça, parce que c'était eux nous en avaient beaucoup parlé. Et c'est vrai que nous le rapport il était par rapport à pas un accident mais par rapport à une catastrophe naturelle, quelque chose qui vient au moment où on s'y attendait pas et qui touche pas des gens qui sont en train de partir, en train de faire quelque chose quand ça rentre dans nos vies. Et en fait ça, mine de rien, tout le monde me dit mais c'est un peu comme les situations des immeubles à Marseille. Non, ce n'est pas la même chose. Nous on a voulu raconter l'histoire des catastrophes naturelles qu'ont vécu plein de Français depuis des dizaines d'années, depuis les inondations, les tornades et tout ça, et quand à un moment sa vie elle bascule pour quelque chose qui nous échappe complètement. Et c'est vrai que ça a quelque chose de commun avec DNA, ça a une intention qui est un peu différente à la fin, et puis on espère que ça a des déploiements qui sont très différents surtout.
Bon, un petit scoop avant de se quitter, avant d'accueillir nos trois comédiens, dans les semaines à venir, quels vont être les thèmes qui vont être abordés, on va dire, dans cet automne plus belle?
On va avoir une intrigue MeToo très jolie qui va traiter la France dans le MeToo 2 ans après, en posant la question de est-ce que les personnes qui ont été coupables sont tombées, est-ce que les gens qui étaient suspectés étaient vraiment coupables. Donc là on va se pencher encore sur l'histoire de nos personnages, et ce sera l'occasion du grand retour d'Aurélie Vanek dans cet arche, donc c'est chouette, ça mélange pas mal de choses. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'antenne d'ici octobre il y a un retour que personne n'a vu venir et qui est un peu surprise et qui a un rôle assez important dans le post-prime, donc je suis content qu'on ait réussi à garder ce secret là.
Très bien. Bon, en tout cas, merci à toi d'être passé nous voir. On va accueillir les trois comédiens dans un instant, Éléonore, Jérôme et Thibaut. Merci à toi. On va tout de suite passer un petit extrait de ce prime. À bientôt.
Merci, au revoir, à très vite.
Ils ne le savent pas encore, mais bientôt, leur vie va changer à jamais.
Théo, dis-moi que tout va bien.
Plus rien ne sera comme avant. Soirée exceptionnelle, Plus belle la vie. Mardi dès 21h05 sur France 3.
Allez, large page aujourd'hui consacrée à Plus belle la vie, hein, qui fête ses 15 ans depuis le 30 août en grande pompe. Et puis là, eh bien évidemment, c'est le point d'orgue demain avec ce prime événement qui nous attend sur France 3. Et eh bien, on a trois comédiens qui sont avec nous pour en parler. Jérôme Mertin, bonjour.
Bonjour tout le monde, comment ça va?
Ça va super bien, merci d'être avec nous, alias Patrick Nebout. Nous avons Éléonore Sarrazin qui est avec nous, alias Sabrina. Bonjour Éléonore.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et Thibaut Vanek, qui est avec nous également, alias Nathan Lézerman.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, je suis très fier de t'avoir, Thibaut, parce qu'en plus, c'est une première dans Chut, on écoute la télé. Donc, bienvenue chez nous.
Merci.
Alors, prime événement, 15 ans d'une série. Alors, même si tous les trois, Thibaut, je ne sais plus depuis combien d'années tu y es pour le coup. C'est peut-être toi le plus ancien des trois, je crois bien.
Ah oui.
Largement.
Oui, c'est sûr. Je suis arrivé en 2005, moi. C'était presque au début.
Ah oui, un an après quoi, donc voilà, après les débuts. Alors aujourd'hui, quel est votre regard, puisque là on fête un peu ces 15 ans aujourd'hui, quel est votre regard sur ces 15 ans de la série? Alors on va commencer par le plus ancien, Thibaut.
C'est forcément, moi quand je suis rentré à Plus belle la vie, j'avais 20 ans et c'était le premier tournage que je faisais de ma vie professionnelle. Donc forcément ça a formé ma carrière, après j'ai fait d'autres choses à côté, mais j'ai toujours eu Plus belle la vie en même temps. J'ai vu comme ça a changé, je suis parti et je suis revenu. Et effectivement c'est très marrant de voir maintenant à quel point c'est pas la même série qu'au début. Et à quel point tout a bougé à tous les niveaux, et surtout pour des améliorations d'ailleurs. Effectivement, moi, c'est quelque chose de très important pour moi, c'est ma vie professionnelle, quoi.
Pour toi, Éléonore, quel regard tu portes sur ces 15 ans de la série? Est-ce que toi, tu l'as regardée depuis que t'étais toute petite?
Oui, moi j'ai regardé de mes 10 à 14 ans, donc je regardais Thibaut en fait dans l'écran quand j'étais petite.
T'étais amoureuse ?
Tu t'es amoureuse ? Il était déjà un peu vieux pour moi, ah, malheureusement. Ouais. Mais non, moi j'ai eu la chance de rentrer dans un train qui allait déjà à très très grande vitesse. Donc,
belle image, je trouve.
Ouais, je me suis arrêtée doucement à une gare histoire de me faire monter, mais sinon ça avance, ça file droit. On a une super équipe qui se nourrit beaucoup de l'amour du public, et je pense que c'est aussi pour ça que la série continue de fonctionner. Et c'est grâce à eux que la série est encore là, et que nous, du coup, enfin moi qui suis arrivée bien après, je peux partager du coup un petit peu de ce bonheur-là. Donc je suis ravie.
Ouais, celui qui nous a fait croire que pendant 15 jours qu'il était mort l'année dernière, le grand vilain. Tu nous as fait peur, hein, Jérôme.
Bah, c'est surtout les auteurs qui avaient... Mais moi, bon, il y a 15 ans, j'étais pas né, donc j'ai pas beaucoup de recul sur sur la série, quoi. Je suis très surpris par l'attitude de Thibaut, qui est quand même un énorme déconneur, et là, qui est super timide. Il est touchant comme ça, parce que c'est un peu c'est notre maître à tous, quoi. C'est notre ancêtre. On l'appelle comme ça d'ailleurs dans la série. Et c'est un modèle. Donc moi, en fait, quand je serai grand, je serai Thibaut Vanek.
Réaction à chaud.
Oh, bah écoute, je pense qu'on vient de voir qui était le grand déconneur.
Mais en tout cas, Jérôme, toi, t'as repris un train, c'est pareil, qui avait déjà été arrêté pour Franck, et t'as repris le flambeau brillamment. Aujourd'hui, Patrick Nebout est un des, on va dire, des comédiens et des personnages préférés de la série, à tel point que ça a fait un buzz énorme, ta fausse mort, l'année dernière.
Ah ouais, moi j'avais été très très surpris, parce que je m'attendais pas d'abord à ce qu'ils écrivent ça, les auteurs. Donc ça a été, parce que moi je l'ai vécu comme une vraie mort, hein. Le but du jeu, c'était de le vivre comme ça. Donc j'avais un peu l'impression, je savais que j'allais pas partir, mais quand même j'ai ressenti ce que ça pourrait faire de partir. Et je le déconseille à tout acteur de Plus belle la vie qui veut rester, parce que c'est assez violent, c'est très très violent. Mais ça a été génial, parce que ça a été un retour d'amour de la part des fans qui a été exceptionnel. Donc non, c'était une très très belle intrigue, et il y a pire qui arrive.
Oui, ce prime catastrophe pour le coup que l'on va voir demain. Alors sans trop en dévoiler évidemment de l'histoire, mais en gros une tribune va s'effondrer pendant un match sportif. Et là, évidemment, patatras, ça va rebattre les cartes. Et le destin de nombreux personnages risque d'être distribué pendant ce prime. Hein, Thibaut.
Oui, bah je crois que t'as tout dit. Enfin, t'as dit tout ce qu'on pouvait dire, quoi.
Ouais. C'est bien, t'as vu, je suis bien informé déjà.
Mais c'est ça qui va se passer. Pour ce passage des 15 ans, je pense qu'on a voulu marquer le coup, faire quelque chose qui rassemble beaucoup de personnages qui étaient là depuis longtemps, et faire un nouvel élan, un nouveau changement, des destinées de personnages qui changent et qui sont percutés par cet événement, et plein de nouvelles histoires qui partent de ça.
Alors, c'est plus un secret, on sait qu'Aurélie va revenir aussi. Elle a repris le tournage ou pas encore ?
Je crois que c'est bientôt, je sais pas exactement quand c'est.
Ninon is back. Oui, ça va être un grand plaisir en tout cas de retrouver Aurélie Vanek aussi dans la série pour de nouvelles aventures. En tout cas, je crois que les fans l'attendent depuis longtemps.
Oui, bah j'aurais pas demandé, mais à mon avis oui, parce que Ninon, c'est un personnage que les gens aimaient beaucoup.
Bon, je crois que Patrick Nebout va avoir dur à faire en tout cas après cet effondrement, et je crois que les nerfs de Patrick Nebout vont être mis à rude épreuve demain soir.
Absolument, ça va être vraiment un moment crucial pour Patrick Nebout. Mais je peux pas tellement vous en dire plus. Moi, ce qui m'a touché aussi, c'est qu'encore une fois, les auteurs ont fait un travail de synthèse de l'actualité. C'est-à-dire que c'est vraiment des histoires qui ont existé d'une certaine manière. Évidemment, on peut pas ne pas faire référence à l'effondrement d'immeubles à Marseille, ou même à ce qui s'était passé en Corse, à Furiani, etc. et tout ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui va emporter. Et il y a une spécificité dans ce prime, c'est que par rapport au dernier en tout cas, souvent dans les primes, on mélange trois histoires en même temps. Là, il y a qu'une seule histoire, mais avec énormément de personnages importants de la série, et du coup derrière c'est comme un feu d'artifice, c'est-à-dire que c'est comme le bouquet final, c'est-à-dire que ça va lancer plein d'autres nouvelles histoires impliquant des personnages cruciaux de la série.
En tout cas, on va vous suivre, hein. Nous demain soir à 21h on sera devant l'écran dans la continuité de La Quotidienne, bien évidemment, et merci bien infiniment d'être passé et bien nous en parler aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour terminer, Jérôme ?
Au moins 15 ans de plus, hein.
Ça c'est bien.
Et en bonne santé.
C'est encore mieux.
Et du bonheur.
Et ben voilà, c'est parfait. En tout cas, merci à tous les trois d'avoir nous avoir amené en tout cas ces 7 minutes de bonheur avec nous.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, on démarre notre spécial pour Sarah. Ça démarre jeudi sur TF1. C'est le rendez-vous à ne pas manquer. 6 fois 52 minutes et une aventure palpitante qui nous attend. On va en parler avec Clément Rémiens, qui joue le rôle de Cédric, dans un instant. Mais d'abord, on va accueillir le réalisateur qui est avec nous, Frédéric Berthe. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Comment vous êtes arrivé sur cette aventure et qu'est-ce qui vous a séduit dans cette histoire ?
Je suis arrivé parce qu'on m'a proposé les 6 scénarios en me disant que la productrice m'a fait comprendre que ça l'intéressait que je les réalise. Et ce qui m'a intéressé, c'est que pour une fois, c'était pas un polar, c'est un format moins conventionnel que ce qu'on a l'habitude de voir. Et c'est donc ça avait un intérêt majeur pour moi de pouvoir raconter cette histoire-là et tous ces personnages-là.
Alors, en quelques mots, ça démarre par un accident, mais où rien n'est logique dans cet accident finalement.
Oui, c'est ça. Ça démarre par un fait divers un peu bête avec deux gamins de 18 ans qui ont un accident de voiture assez terrible. Et il y a un espèce de fil conducteur un peu policier, mais encore une fois, c'est pas un polar, donc un peu policier qui laisse entendre que l'accident s'est pas passé exactement comme on pourrait l'imaginer aux premières constatations. De ce petit fil que la gendarme qui est jouée par Aura Tika va tirer pour essayer de savoir ce qui s'est réellement passé, petit à petit ça va faire imploser le microcosme et familial et
de l'adolescence en même temps.
Et de l'adolescence et des amis et de tout ce petit monde, qui parce que tout le monde se connaît évidemment, donc les parents d'Eden dans la série et de Clément se connaissent et sont très amis, et donc c'est l'explosion de tout ce petit monde à cause d'un fait divers qui, je le dis et je le répète, est un fait divers qui malheureusement peut nous arriver à tous. C'est important de pouvoir aussi expliquer ça à travers cette série.
Alors c'est librement inspiré d'une histoire vraie, hein ?
Oui, absolument. C'est arrivé malheureusement à une jeune fille qui s'appelle Justine Roson au Canada, et son papa qui est producteur en a fait une série, pas pour se servir de cet accident terrible, mais pour juste expliquer aux jeunes et moins jeunes que il y a des responsabilités à avoir dans la vie et que c'est important. Alors c'est pas une série sur, on fait pas la morale, mais on explique que voilà, il y a tout un tas de choses qui peuvent entraîner des catastrophes qui vont très très loin en fait, dont on se rend pas forcément compte quand on est 18 ans.
Vous avez dû vous caler sur la version canadienne ou pas du tout? Vous avez pu quand même rester libre de ce que vous souhaitiez faire, vous, par rapport à la France?
Les scénarios sont parfaitement adaptés à la France, donc on est resté parfaitement libre de raconter cette même histoire, mais dans un format différent, parce que les Canadiens, c'est 10 fois 40 minutes, je crois. Nous, c'est 6 fois 52. Quant à moi, j'ai pas vu la série canadienne, j'ai pas voulu la voir, en fait, pour pas me retrouver piégé au moment de mettre en scène par des choses que j'aurais vues.
Vous êtes influencé après.
Oui, ou en tout cas, c'est un petit truc qui nous travaille dans la tête et je voulais pas de ça.
Un mot du casting, on va énumérer ce fabuleux casting qu'on va retrouver parce qu'il est absolument hallucinant.
Ouais, c'est un très beau de casting, des acteurs vraiment, vraiment, d'abord très bons acteurs, mais en plus très investis dans cette série. Donc on énumère, alors sans ordre de préférence, comme ça me vient. Donc il y a Aura Tika, Audrey Dana, Caroline Anglade, François-Xavier de Maison, Thomas Jouanet, et pour les jeunes, Clément Rémiens, Eden Ducourant, Victor Leblon, Charlotte Lévy, Juliette Petiot, voilà. Et puis plein d'autres gens, parce qu'il y a les éternels, enfin mes éternels soutiens et les acteurs avec qui je tourne dans toutes mes séries ou dans tous mes films.
Quel est votre meilleur souvenir sur ce tournage ?
Oh, c'est compliqué. Je vais dire, d'une manière générale, le tournage est un excellent souvenir. Parce que ça a été une sorte de... Ouais, on a fait ça, on racontait une histoire terrible, mais dans une ambiance assez géniale, avec des gens très concentrés, mais aussi qui avaient envie de passer un bon tournage. Avec on s'est bien marré aussi. C'est un chouette tournage global.
On va découvrir cette histoire. On va évidemment plonger dans ce monde de l'adolescence, des fois un peu sombre. On retrouve Pour Sarah, c'est donc jeudi à partir de 21h05 sur TF1. Clément Rémiens va nous rejoindre d'ici quelques instants pour nous parler du personnage de Cédric, personnage central de l'histoire, avec évidemment le personnage de Sarah. Frédéric, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Plein d'audience pour vendredi matin ?
Ouais, ça sera super. Hein. Par exemple. Oui,
on fait ce travail pour qu'un maximum de gens le regardent, évidemment.
Bah, c'est super, merci à vous en tout cas, c'est très gentil.
Merci Frédéric, et puis on va écouter tout de suite un petit extrait avant d'accueillir Clément.
Allô ?
Luc ? Sarah a eu un accident, je suis aux urgences.
Vous savez ce qui s'est passé ?
On sait pas qui conduisait, ils ont été projetés hors du véhicule.
J'ai pris un avocat. Mais d'où tu me parles d'avocat, là ? Nos gosses, ma fille dans le coma, putain. Si le conducteur de l'autre voiture a pris la fuite, c'est forcément lui le responsable.
Si c'est pas juste un accident, je veux savoir de quoi il en retourne. D'après vous, qui est responsable de ça ?
Événement pour Sarah, votre nouvelle série inédite. Bientôt sur TF1.
Allez, dans Chute, on écoute la télé aujourd'hui. Eh bien, nos coups de cœur télé, c'est Pour Sarah, la série qui démarre jeudi sur TF1. Et je ne suis pas peu fier de le retrouver à mes côtés, puisqu'on était là à ses débuts, Clément Rémiens, et quel chemin parcouru. Salut Clément.
Salut, comment ça va ?
Ça va super bien. Je suis super heureux de t'avoir parce qu'il s'est tellement passé de choses et on est tellement fiers de toi. Parce qu'on était là au début pour toi et voilà, Danse avec les stars, l'incroyable finale. Demain nous appartient, le succès qu'on connaît aujourd'hui. Et là, tu es à la tête carrément de cette nouvelle série qui débarque jeudi.
Et ouais, maintenant c'est une nouvelle expérience. On va voir comment ça va se passer. En tout cas, j'étais super heureux de faire cette série. J'espère que ce sera à la hauteur du bonheur que j'y ai passé. Et voilà, c'est jeudi à 21h.
Alors, jeudi à 21h, on va découvrir les deux premiers épisodes aux côtés de Eden Ducourant et plein de beaux mondes dedans, puisque on y retrouvera toute une pléiade de comédiens, Thomas Jouannet et bien d'autres encore. Et je crois que, sans spoiler, on peut dire qu'il va y avoir un accident de voiture qui va créer beaucoup de mystères et qui va nous permettre de rentrer un peu dans les arcanes des adolescents, en même temps des adolescents même on pourrait dire, et de ce petit monde.
Exactement, alors ça commence dans une soirée entre jeunes et puis à la suite de cette soirée, enfin, le lendemain on retrouve deux adolescents, Sarah et Cédric, entre la vie et la mort quoi. Donc à travers cet accident il va y avoir plein de secrets dévoilés et on se rend compte que voilà, on connaît pas forcément ces enfants.
Et c'est pas toujours évident, effectivement. Alors on va découvrir les deux premiers épisodes déjà pour commencer jeudi. Là c'est l'accident, le début de l'enquête menée par Horatica qui va s'apercevoir que sa fille était en contact avec vous la même journée que l'accident. Donc il y a tout plein de mystères. Qu'est-ce qui t'a plu en premier dans le personnage de Cédric déjà ?
Ce qui m'a plu chez Cédric, c'est qu'il a une volonté de savoir. En fait il mène sa propre enquête. Après tout ça, après cet accident, il se souvient plus de rien. Et du coup il va mener sa propre enquête, mais... Mais c'est quand même pas simple de mener une enquête quand il s'agit de soi-même, quoi. De mener une enquête sur soi-même. Donc voilà ce qui est intéressant. Après tout ce qu'il y avait à jouer, je dirais qu'il y a 80% du personnage après l'accident et aussi la construction du personnage et la base de Cédric, à peu près 20%, quoi. Ouais, ça a été tout un travail à étudier avant. On s'est vu avec les prods, avec les partenaires pour essayer de construire ça au maximum dans le bon sens.
Comme quoi, même si on est sur une quotidienne, on peut arriver à s'extirper pour faire d'autres choses.
Bah oui, tant mieux. D'ailleurs, plus j'aurai d'autres choses, plus ça me donnera envie de rester. C'est normal. Histoire de... Si on travaille toujours au même endroit, on finit par s'en lasser. Mais si on va voir un petit peu ailleurs, bah c'est toujours mieux. Puis d'ailleurs, ça s'est fait deux fois avec Danse avec les stars et avec Pour Sarah. Et ça s'est super bien fait. Donc.
T'as réussi à dormir un petit peu quand même entre Danse avec les stars et le tournage. Parce que non seulement, je sais moi que tu tournais en même temps que Danse avec les stars... Ça n'a pas dû être facile, même si je crois que juste avant Noël, t'as lâché les armes, tu as dit « je me barre en vacances 15 jours
hein. ». Ah oui, là j'étais obligé. Après Danse avec les stars, c'était la règle, c'était obligatoire. Ouais, sinon j'aurais craqué, c'était pas possible. Déjà j'ai tenu sur les nerfs sur Danse avec les stars, sur la fin de Danse avec les stars. Bon, sur l'autre série, ça a été un peu le cas aussi, mais c'était évidemment moins physique et moins intense. Mais on l'a fait quand même. Sur Pour Sarah, j'ai fait les deux en même temps. Dès que je tournais pas dans une série, c'était que j'étais dans l'autre.
T'es pas très loin l'une de l'autre, je crois, cette tournée.
Ouais, l'avantage c'était que on a tourné vers Perpignan. Bon, c'était un petit peu au début vers Paris. Donc au niveau des transports, c'était un peu galère au début, mais après. Après, vu que c'était à Perpignan, c'est pas trop loin, donc ça a été.
La rencontre avec Eden ?
Super, super. C'est une chouette fille. Après, ce qui a été très délicat, c'est qu'on a construit nos personnages sans se connaître au début, puisqu'on a fait quasiment la plupart de nos scènes tout en parlant de l'autre sans se connaître, quoi. Parce qu'en fait, on n'a pas énormément de jeux à développer tous les deux. On n'a pas eu beaucoup de scènes. Mais il fallait quand même que les gens, enfin j'espère que d'ailleurs ça fonctionnera, que les gens ressentent un duo sans forcément les voir tous les deux au même moment à l'écran, quoi.
Alors évidemment, Demain nous appartient, le rendez-vous continue. Est-ce que tu es surpris du succès grandissant et de la popularité que t'as amené la série ? C'est incroyable ce qui se passe sur cette série.
Bah, c'est incroyable, il y a de plus en plus de monde et les gens sont fidèles. Donc ça fait plaisir de voir son travail récompensé. Et tant que les gens sont fidèles et prennent plaisir, nous aussi on prendra plaisir.
Tu dois avoir un grand-père fier de toi aujourd'hui.
Oui, ça c'est sûr que mon papy est fier de moi. Il a hâte de voir la nouvelle série et ouais, c'est vrai que je l'imagine bien sur son petit canapé à attendre 21h.
Nous aussi, on a hâte de voir la suite. On a pu voir les deux premiers épisodes en avance. On a été des chanceux là-dessus, mais on va découvrir la suite. Alors, dans Demain nous appartient, t'as aussi une nouvelle sœur qui arrive à l'écran.
Exactement, une nouvelle Judith. Ce sera la troisième et elle s'appelle Alice. Ça s'est super bien passé, la rencontre s'est super bien passée. Tout de suite, on a eu des scènes assez légères où on a pu discuter et rigoler et créer notre duo. Donc j'espère que ça...
L'amitié intacte avec Joachim et avec Hector.
Ah oui, voilà, bien sûr, ça c'est sûr.
Le trio de choc.
Après, c'est vrai que Joachim n'est plus trop là, mais il est chez moi maintenant. Je suis arrivé chez lui à 7 et lui est parti chez moi à Lille.
Elle revient de temps en temps.
Eh oui, et moi je vais à Lille de temps en temps donc je le vois. Non, bien sûr, oui, c'est toujours intact.
Bon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Clément ?
que dans quelques jours ça se passe bien pour moi à l'écran. Et moi, c'est à moi de souhaiter aux gens de passer un beau moment, et en tout cas on a tout fait pour que ce soit le cas.
On va suivre ça avec attention. Pour Sarah, ça démarre jeudi soir, c'est à 21h05 sur TF1 avec Clément Rémien, Céden Ducourt et tout plein d'acteurs talentueux. Je vous conseille vraiment de ne pas rater cette nouvelle série. On te retrouve aussi dans Demain nous appartient tous les jours à 19h20. Merci à toi.
Merci beaucoup.
Comme on est à la radio, je te demanderai pas de faire un pas de danse avant de partir, parce que c'est pas très radiophonique, mais le cœurier.
Bah, je peux faire des claquettes si tu veux.
Exactement. Merci à toi, on t'embrasse très fort et à très vite.
À bientôt.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, on parle du Dindon. Vous savez que c'est notre sortie coup de cœur ciné cette semaine dans Chut, on écoute la télé. C'est Camille Lelouch qui est avec nous pour la première fois dans Chut, on écoute la télé. Bienvenue Camille, merci.
Bah, merci à vous de m'accueillir, merci beaucoup.
Merci d'être avec nous. Un rôle, alors comment tu le définirais? Parce que tu l'as défini devant le public au festival d'Angoulême il y a quelques semaines quand le film a été projeté. J'étais là, alors je te laisse te définir toi-même.
Bah alors moi je joue le rôle d'une pute, hein, il faut le dire, appelons un chat. Et je suis très flattée d'ailleurs. C'est un honneur pour moi d'incarner ce genre de personnage, parce que c'est une femme qui au quotidien quand même fait 47 fois l'amour sans qu'elle ait vraiment le choix, puisqu'elle fait ça pour gagner sa vie. Et je trouve qu'elle a dans ce, en tout cas de ce personnage, elle a une espèce de légèreté parce qu'elle n'a pas le choix de l'être. Sa vie c'est du sexe au quotidien, donc pour se libérer de ça, elle a ce côté un peu léger où elle essaie de se mêler un peu des histoires, elle essaie un peu de tout maîtriser. C'est un petit peu la patronne même de l'hôtel. Hein. Dans le film, elle dit que c'est un peu son hôtel, mais ça l'est pas, mais c'est un peu la cheftaine. Tout le monde lui demande à chaque fois ce qu'il a à faire, alors que c'est juste Jacqueline qui ramène des clients et qui couche avec eux. Mais tellement, elle est très touchante, elle est très attachante. C'est la Jaja, quoi. C'est la Jacqueline. Elle appartient à tout le monde. Elle a une petite amourette dans le film. À côté de ça, elle doit quand même aller faire l'amour avec son client. Donc, elle doit dire au revoir à la personne qu'elle aime. Mais de l'autre côté, elle doit quand même coucher avec ce client parce qu'on a besoin d'argent. Elle doit aussi faire un choix entre plusieurs clients. Est-ce que lui, je vais lui prendre, parce que 300 francs, c'est bien, mais 250 réguliers, c'est peut-être mieux. Voilà, son souci, c'est quand même des choses de la vie qui sont pas forcément foufou. Mais elle est forte, donc du coup elle arrive à le faire de manière, en tout cas de l'incarner de manière très légère, voilà.
Alors moi ce que j'ai bien aimé, c'est que mine de rien, on a souvent vu des films adaptés en pièces de théâtre, mais le contraire est un petit peu plus rare, et surtout un monument du théâtre comme Feydeau.
Ouais, tout à fait. Alors oui, alors après c'est vrai qu'il faut bien le dire, c'est pas une pièce de théâtre qui est filmée au cinéma.
Pas du tout, c'est vraiment une inspiration libre.
Exactement, c'est juste une adaptation. Et je trouve que c'est très bien fait d'ailleurs, c'est pas parce que j'ai joué dedans, mais je trouve que c'est bien fait, c'est bien filmé, c'est rythmé comme dans une pièce de théâtre. Les gens jouent comme dans une pièce de théâtre. En plus, tous les acteurs ont déjà fait du théâtre. Guillaume...
T'as l'expérience de la scène en plus.
Oui, tout à fait, en humour. Et Ahmed, pareil, Dani, pareil. Donc c'est vrai que c'était une force pour moi, en tout cas, ce truc-là, de rythme, d'énergie, de mélodie, de créer un personnage. Dans le travail, ça a été plus facile... Parce que je le fais déjà, moi, dans mon spectacle. Après, le texte, il faut le travailler. Moi, je suis arrivée avec un petit accent parisien, donc ça, fallait le travailler aussi, c'était du travail. C'était quand même facile, c'est bizarre, mais... Parce que peut-être j'ai beaucoup travaillé, c'est pour ça que c'est devenu facile après.
Exactement, c'est sûr et certain. Dis-moi Camille, quand t'as le gars qui a quand même réalisé Yves Saint-Laurent, qui a réalisé des épisodes de Versailles, qui vient de chercher pour un rôle dans son prochain film, là, tu te dis quoi à ce moment-là?
Je suis touchée, mais en même temps, moi, mon premier réflexe quand je dois faire un rôle comme ça avec des gens très talentueux, c'est le trac. J'ai très très peur. Donc je me pose beaucoup de questions. Je dis, ok, c'est fou, je travaille avec Jalil Lespère. Et à côté de ça, je me dis, ok, il faut que je sois à la hauteur. Puis Jalil, il dirige très bien, il a ce truc de rigueur et de... Il est très très dur, mais dans le bon sens. Il te dirige, c'est sec, mais c'est efficace. Et puis derrière, quand t'as bien joué, il te fait un petit bisou sur la joue ou sur le front et voilà, c'est son compliment.
C'est qu'il est content.
Ouais. Et moi, j'aime bien les gens rigoureux mais humbles. À la fois, il est vraiment à sa place. Il laisse les propositions. Si par exemple, je dis là, Jalil, qu'est-ce que tu penses de ça? Il me dit, bah, fais, puis on voit. Il est assez généreux. Il n'y a pas d'ego de réalisateur. C'est moi le réal, donc on fait comme ça. Non, c'est vraiment un bonheur de travailler avec lui.
Un film court, efficace, très rythmé. Qu'est-ce que tu gardes, toi, comme souvenir principal d'une scène ou du tournage, de ce qui a pu t'arriver peut-être dans une scène un peu drôle?
La scène avec Ahmed, il me plotte sur le lit plusieurs fois. Donc moi, comme je suis très pudique, j'avais demandé, ça c'est un petit secret, des faux seins. Parce que je suis très pudique, donc je n'avais pas envie de sentir qu'on me touche les tétés en vrai. C'était très gênant, donc j'avais des faux seins. Donc quand il me plotait, il me faisait rire pour me détendre, quoi. Et du coup, Ça m'a marqué parce que je faisais semblant, donc je rigolais. Mais en fait, dans ma tête, je voulais vraiment rire encore plus avec mon vrai rire à moi de poissonnière. Et ça, c'est le moment qui m'a beaucoup marqué parce que c'est gênant. Quoi. C'est tellement gênant quand t'es pudique sur ça. Du coup, ça m'a marqué, ouais.
Des beaux souvenirs en tout cas. Le Dindon, c'est le film à ne pas manquer. Il sort mercredi au cinéma. Camille, des projets pour la suite ? Pour le coup, est-ce que la scène, d'autres films cinéma, est-ce que c'est un peu ton année quand même cette année ?
Je touche du bois, hein, pourvu que ça dure. Bah moi, je reprends mon spectacle, ce sera la dernière année. Donc je suis en tournée, 12 fois par mois. J'ai 2 Playels qui sont déjà complets depuis un moment, je suis ravie. J'ai un Olympia aussi, le 16 janvier. J'ai 9 Zénith, puis après je fais une petite tournée loin. De là, j'écris aussi un film. Voilà, donc j'ai pas mal de choses, j'ai beaucoup de travail.
Bref, vous avez compris, il fallait voir Camille Lelouch sur scène. N'hésitez pas à aller la voir, le Zénith, l'Olympia en tournée dans toute la France. Vous aurez largement le choix. Je suis sûr que tu passeras près de nos auditeurs, en tout cas en Nouvelle-Aquitaine. Merci à toi Camille.
Eh ben, merci beaucoup, merci.
Et on te dit à très très vite. Le Dindon, on va se refaire un petit extrait juste avant de partir. Merci.
Merci beaucoup.
Je vous ai rencontré dans le quartier, ça a été le coup de foudre. Depuis 8 jours, je m'attache à vos pas, vous l'avez remarqué.
Bon, ça suffit, j'appelle mon mari.
Laissons cet imbécile de côté, voulez-vous ?
Mon mari est un imbécile.
Les maris des femmes qui nous plaisent sont toujours des imbéciles. Merde, Vatelin.
Montagnac !
Quelle bonne surprise !
C'est toi qui es chez moi ?
Avouez-le franchement, vous en aimez un autre.
Je suis une femme respectable.
Il vous drague ?
Pourquoi ? Vous croyez avoir l'exclusivité ?
Un homme que vous connaissez depuis 10 minutes ?
20 ?
J'ai la femme dans le sang.
Oh, ça tombe bien, vous en avez une.
Ah, ma femme, oui.
Bonjour.
Bonjour.
La femme, elle est là.
Sa femme ?
Oui. Pas sa mère.
Les sorties DVD de la semaine.
Allez, pour cette rentrée, on va reparler des crevettes pailletées. Le 6 mai dernier, rappelez-vous, dans Chute, on écoute la télé, on avait la quasi-totalité de l'équipe de nos crevettes adorées. Eh bien, ceux qui n'étaient pas là sont là avec nous pour la sortie DVD qui a lieu cette semaine avec Geoffrey Coué qui est avec nous. Bonjour Geoffrey.
Bonjour.
Qui joue le rôle de Xavier dans le film. Et le rôle d'Alex, eh bien, c'est David Bayot qu'on a plaisir à retrouver dans notre émission qu'un habitué. Salut David.
Salut.
Merci d'être avec nous. Les crevettes pailletées, un succès incroyable qui a dépassé un peu d'ailleurs les deux co-réalisateurs du film. Mais une aventure comme ça à vivre, c'est une aventure humaine incroyable, Geoffrey.
Ah oui, dingue. Et puis c'est vrai qu'on ne s'attendait pas du tout à tout ça. C'est-à-dire que le film est sorti, on a fait des entrées, on a été invité à Cannes, on est invité aussi ailleurs dans le monde. Enfin, tout a été bien plus grandiose que ce qu'on imaginait. C'est hyper réjouissant d'avoir tous ces cadeaux. Puis là, la sortie DVD, enfin, on sait qu'il se passe encore des choses. Donc ouais, c'est dingue, c'est dingue.
Alors toi David, je sais que tu as eu un peu le cœur gros puisque tu as raté l'Alpe d'Huez, la première grande projection des crevettes pailletées, et t'en as pleuré, hein, je crois là.
Oui, effectivement, ouais, ça m'a fait un peu mal au cœur parce que je pouvais pas être avec les copains déjà pour un super événement, donc ce festival, et en plus on a été récompensé d'un prix, donc là quand ils m'ont appelé pour me l'annoncer, j'étais très très heureux, mais en même temps j'étais un peu triste parce que j'aurais voulu vivre ça avec eux, quoi. Mais c'était le début de cette belle aventure qu'est les crevettes. Quoi.
Comment vous êtes arrivés tous les deux dans cette aventure justement ?
Casting. Ouais, on a fait un casting avec Coralie Amadeu. En fait, on a fait le casting un an avant de tourner parce que le film devait se tourner dans la foulée, mais finalement, on n'a pas eu les financements nécessaires, donc on a dû attendre un an et on savait qu'on était tous validés au moins un an avant. Et on se connaissait à peu près pour la plupart. En tout cas, moi, je connaissais déjà Geoffrey, Roland, Mika. Voilà quoi. Donc par casting, ouais, on s'est retrouvés là-dessus.
Toi aussi, Geoffrey.
Ouais. Et puis je crois que c'est la grande force de Coralie Amedeo de nous avoir réunis parce que quelque part, on n'aurait peut-être jamais dû travailler ensemble entre celui qui vient du cabaret, de la télé, du ciné, YouTube, du théâtre. Et elle a réussi à piocher dans plein d'univers différents pour composer cette équipe qui est différente. Les personnages sont différents, les acteurs sont différents, et on a eu beaucoup de plaisir à aller vers les univers des uns des autres et puis à se rencontrer. Ouais.
Alors l'histoire du film est assez incroyable, c'est l'histoire, la vraie équipe de waterpolo gay qui s'appelle les crevettes pailletées. Alors l'histoire au départ, c'est Mathias Le Goff, hein, qui tient des propos homophobes au micro d'un journaliste et qui se retrouve à devoir s'occuper de cette équipe de bras cassés au départ et qui s'avère tellement attachante.
Oui, en fait Mathias a eu des propos homophobes et donc il est puni par sa fédération à entraîner une association LGBT de waterpolo. Sauf que c'est une bande de potes qui pensent plus à s'amuser qu'à faire du waterpolo et ils tombent là-dedans et comme lui c'est un champion donc il est là, il veut vraiment gagner, il tombe avec ses énergumènes et il finit par s'attacher et voilà, c'est une belle histoire d'amitié. Hein.
Roland Menoux, on a aussi bien évidemment toute l'équipe. On a même une petite apparition du réalisateur, de Cédric Le Gallo, à un moment donné dans le film, Félix Martinez. On a tellement de beau monde dans ce film. Les deux Romains, Romain Brault, Romain Lancry. Romain Brault qui est absolument incroyable dans le film. Vous l'avez pas vu au cinéma, rattrapez-vous, hein, évidemment, avec cette sortie DVD et VOD, bien évidemment. Alors vous allez rire beaucoup en regardant ce film. C'est un film sur la tolérance. Vous allez certainement aussi pleurer. Je vous le dis, on a vu beaucoup de personnes pleurer à la fin du film. Pour vous, retour sur cette aventure, quels ont été les plus beaux témoignages que vous avez reçus du public ? Là, après, c'est encore une autre histoire. Parce qu'une fois que le film appartient au public, là, c'est lui qui décide.
Bah, moi, je crois qu'il y a eu des choses très générales de merci pour la joie, merci pour l'émotion. Et après, moi, j'ai eu des petites choses de gens qui viennent me dire, mais merci, ton personnage, c'est moi. Je suis fier qu'on puisse être fier de moi. Des gens qui pouvaient dire, je m'assume dans ma vie, mais je sais pas forcément le moment où je me dis, ok, je suis sublime. Et des gens qui me disaient, moi, de te voir, toi, ce rôle-là, ok, je suis quelqu'un de bien, quoi. Et quand on te dit ça, tu te dis, ah, j'ai la chair de poule en le disant, mais non, mais c'est vrai, tu te dis, bon, bah, c'est cool, j'ai pas trahi les gens et ouais, ce genre de choses, ça fait quelque chose. Ouais.
Et toi, David ?
Ben, moi, c'est sur le fait que c'est un film qui touche beaucoup de personnes et un public assez large. Parce que on aurait pu penser que comme c'est sur une toile de fond gay, c'est une équipe gay, ça aurait touché qu'un public gay, mais en fait, pas du tout. On a eu des grand-mères qui sont venues en nous disant, ben, j'ai l'impression de me retrouver avec mes copines, ou des petits jeunes qui nous ont posé des questions et qui peut-être aussi ont réussi à s'identifier à tous ces personnages-là. Parce que on a un vrai panel, on a tous chacun une couleur. Et le fait qu'on soit un peu des héros positifs gays, ben, je pense que ça fait aussi du bien aux gens de voir ces personnes de cette manière-là plutôt que toujours un peu tourmentées, torturées. Et voilà, c'est un film qui est joyeux et qui donne envie. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont vu plein de fois. Le message général qui en ressort, c'est que voilà, ils ont passé un super moment et qu'ils auraient voulu faire partie de cette équipe. Et donc, je pense que le job a été réussi pour ça, quoi.
Bon, vos projets pour la suite, Geoffrey ?
Après, j'ai des pièces et des films et un peu plus tard dans l'année, donc par superstition, je n'en parlerai pas.
Bon, on va suivre ça. David, moi, et toi ?
Je suis en plein tournage de King.
T'as intégré la saison dernière, depuis la saison dernière ?
Depuis deux saisons.
Deux saisons, t'as eu la dernière de Bruno, toi ?
Exactement, j'ai eu droit à la dernière de Bruno et à la première de Julien Baumgartner. Et donc là, on termine normalement en mi-novembre et j'ai un autre projet de série, mais je croise les doigts, je préfère ne pas en parler non plus, et un projet de théâtre aussi pour 2020.
On évoquait aussi un retour de Jawad dans Plus belle la vie. C'est d'actualité ou pas tout de suite ?
Non, pas tout de suite, pas pour l'instant, c'est pas d'actualité.
Alors, peut-être pour 2020 ?
On verra.
Pour les 15 ans de la série, il y aurait de quoi. Ça serait un beau cadeau pour les fans aussi, hein, pour les 15 ans de la série. En tout cas, une petite apparition. On espère bien évidemment te retrouver.
Bah, merci beaucoup.
Merci à tous les deux. On termine par le cri de guerre. On va. Ah bah oui. Ah bah oui. À trois, okay. On peut le faire tous ensemble. Allez, vous êtes prêts ? On va les décortiquer. On est les crevettes pailletées. Allez, bande annonce.
Vous avez rencontré notre nouveau coach ?
Mathias Le Goff, champion du monde d'homophobie.
Bon, allez, vas-y, lâche-moi le cul, pénétoi, arrête ta caméra.
Il a donc été décidé de conditionner la participation de Mathias Le Goff au prochain championnat du monde à une mission au sein d'une association sportive homosexuelle.
On va vous décortiquer, on est les crevettes pailletées.
Avant de les conduire en Croatie au Gay Games.
C'est quoi la meilleure façon de faire un pressing ?
Le nettoyage à sec.
Mettez votre bite à l'air !
Remets ton slip !
Vous en avez rien à foutre de rien, en fait !
Alors si vous supportez plus, on n'est pas obligé d'y aller, d'accord ?
Lundi prochain dans Chute on écoute la télé.
Et je peux vous dire que lundi prochain il y aura du beau monde dans Chute on écoute la télé avec Laïla Bekti et Géraldine Nakache qui viendront nous parler du film J'irai où tu iras. Ça sera notre coup de cœur ciné. Nous recevrons également la chanteuse Zaz qui viendra nous parler de sa tournée mondiale et puis de son dernier album, et bien évidemment. Nous aurons le plaisir de recevoir également pas moins de 4 comédiens de Plus belle la vie ou encore Julie Gaillet qui viendra en exclusivité nous parler de son documentaire Filmmakers.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chute on écoute la télé.
Sans oublier vos applications sur iPhone et Android, Chute on écoute la télé. Quant à moi, je vous retrouve demain à 11h pour la quotidienne sur Radio Bulle. Pour l'hebdo, retour lundi prochain à partir de 19h. Et sur ce, je vous souhaite une très très belle soirée à l'écoute de nos programmes. À demain.
Chute, on écoute la télé avec Réal Chocolat, votre artisan chocolatier. Chocolat sous toutes ses formes et pour tous les goûts. Guimauve, nougat, la fameuse pâte de fruits et les nombreux coffrets gourmands à découvrir dans votre boutique à Boé près d'Agen. Zone La Motte Maniaque et sur réal-chocolat.com. Réal Chocolat fait naître la gourmandise.
Chute, on écoute la télé avec les pâtes à tartiner fabriquées dans le sud-ouest par Lucien Georgelin. Vos points de vente en Lot-et-Garonne sur lucien-georgelin.com.